Campagne électorale fédérale, il y a bien sûr bien des choses qui s'avancent de part et d'autre des différents partis. Évidemment, on a souvent dépeint comme les libéraux comme étant très dépensiers. Hein. Là, cette année, ils auront toujours la carte de dire, ben, écoutez, on avait la COVID, il fallait faire de quoi, il fallait intervenir pour éviter que les Canadiens et Canadiennes se retrouvent dans la misère. C'est vrai. Est-ce que ça a été trop généreux? Probablement. Mais c'est ce qu'on va sortir comme miroir, pour reprendre le terme d'Yvan Ponton dans Ultimatum, quand les différents partis vont les attaquer là-dessus. Hein. C'est définitif. Puis même là, l'argument de tomber à l'élection de Justin Trudeau, c'était ça. On a fait quelque chose pour vous, c'est-à-dire vous donner de l'argent dans les poches. Maintenant, faites quelque chose pour nous. Nous donner un gouvernement majoritaire.
C'est incroyable. C'est incroyable.
Exactement. Exactement. c'est assez incroyable. C'est le bon terme.
Moi, je suis encore en plein déni qu'on s'en va en élection fédérale. Je cherche encore la raison de pourquoi, là, mis à part ce que tu viens de dire là, mais je cherche encore l'utilité en tant que Canadien et Canadienne d'aller en élection. Je la trouve pas. Je ne l'ai pas encore trouvée, moi.
Et en fin de semaine, il y a un des partis qui sont opposés à Justin Trudeau qui ont partagé un tableau de la dette fédérale nette du Canada de 1963 à 2025 en milliards de dollars. Et ce tableau-là provient de l'Institut économique de Montréal. Ça a été fait cette année. Et on va en parler avec Germain Belzile, qui est chercheur associé à l'IEDM. Monsieur Belzile, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, merci, à part la chaleur.
Ouais, bien ça, regarde, on va faire avec. Parlons maintenant du tableau qui est assez frappant, parce qu'on entend souvent dire que les libéraux jettent l'argent par les fenêtres. Les libéraux sont des gouvernements dépensiers. Justin Trudeau ou pas, là, ça a toujours été des gouvernements qui sont dépensiers. Mais quand on regarde le tableau que l'Institut a dressé, est-ce que ça concorde les hausses sur la courbe avec des gouvernements libéraux?
Écoutez, historiquement, pas entièrement, ça coïncide avec des gouvernements, en tout cas, ça c'est sûr, là, parce que les gouvernements ont toujours la même attitude. Par exemple, le gouvernement libéral Chrétien Martin a réglé les problèmes qu'on avait dans le milieu des années 90. On avait une dette qui était hors de contrôle, elle avait atteint à plus de 70% du PIB. On avait été nommé une république de bananes par le Wall Street Journal. Et puis, on avait perdu le contrôle de nos taux d'intérêt de long terme. Ça veut dire que les étrangers ne voulaient plus prêter au gouvernement fédéral canadien, à moins de prêter à des taux d'intérêt très élevés, comme la Grèce, par exemple, ou des pays comme ça. Et puis, eux autres, ils ont réglé le problème en 4 ans. Ils sont passés de gros déficits budgétaires à un surplus conséquent. Et puis, ce surplus-là, ben les libéraux de Chrétien Martin l'ont gardé. Et puis ensuite, sous Harper, c'était la même chose. On a eu 9 ans de suite avec un surplus budgétaire, donc on a remboursé de la dette. Et puis ensuite, une année avec un équilibre budgétaire. Avant de retomber en déficit sous Harper, avec la crise économique de 2008.
2008, c'est ça, parce que sur la courbe, c'est là qu'on voit que ça commence à augmenter à nouveau. C'est en 2008 quand il y a eu le plan d'action économique pour relancer l'économie par Harper.
C'est ça, exact. Okay. Et puis, les conservateurs avaient quand même un plan de retour à l'équilibre sur quelques années. Les libéraux, sous M. Trudeau, ont pas de plan clair de retour à l'équilibre. Ils disent que ça va se régler plus ou moins par tout seul. Ils ont eu un déficit gigantesque avec le début de la pandémie, 354 milliards de dollars. Et puis, pour l'année fiscale en cours, on s'aligne pour à peu près 150 milliards de dollars de dettes supplémentaires. Ce qui est frappant avec ça, c'est que, historiquement, depuis les compressions de Paul Martin et compagnie, les dépenses du gouvernement fédéral, c'est à peu près 15 % du PIB. C'est vraies dépenses, là. On parle pas des transferts aux provinces ou des choses comme ça, mais c'est vraies dépenses à lui, là, 15 % du PIB. Mais sous Trudeau... sous le gouvernement libéral, ça a monté à 30 % avec la pandémie. Et puis, ça ne reviendra pas à 15 % par la suite. Donc, il y a une augmentation permanente des dépenses. Ça va vouloir dire ben, ou bien des déficits pendant très longtemps, ou bien des impôts plus élevés.
Hey, dites-moi donc, justement, vous avez parlé à un moment donné que, là, Chrétien, tout ça, Martin avait ramené peut-être une tendance vers un équilibre budgétaire. Est-ce que ça... Là, je vais peut-être mélanger des époques et des dates, mais est-ce que ça avait été, entre autres, une résultante de l'investigation, de l'instauration de la TPS à l'époque?
Pas vraiment. En fait, la TPS devait être neutre. C'est-à-dire qu'on devait remplacer une taxe sur les produits manufacturés de 18 % par une TPS à 7 %. Ça, ça a été réduit par la suite sous Harper à 5 % la TPS. Et c'est pas vraiment la cause. En fait, si on veut savoir d'où venaient nos déficits, il faut remonter à Trudeau père, à Pierre-Éliott Trudeau, qui, dans les années 70, a augmenté fortement les dépenses en augmentant moins les taxes et les impôts. Et puis, on avait des déficits récurrents depuis 73, 74, quelque chose comme ça. Là. On n'était jamais... on accumulait des dettes tout le temps.
Dites-moi, tantôt, vous avez parlé de la volonté de Justin Trudeau de retourner à un équilibre budgétaire, quasiment en espérant, avec l'espoir d'une forte reprise économique. Est-ce que vous croyez à ça? De ne pas avoir de plan, puis en se fiant justement à l'après-crise sanitaire pour stimuler l'économie, puis ramener de l'argent dans les coffres de l'État?
Ben, personnellement, j'ai des doutes. Et ça, c'est mon expérience d'avoir examiné les finances publiques de plusieurs pays. C'est tellement facile pour des politiciens, puis là je parle de n'importe quel parti, là, de dépenser. Ils sont populaires quand ils dépensent plus parce qu'ils font des cadeaux aux gens. Et puis ils sont impopulaires quand ils augmentent les taxes ou les impôts. Donc, pour être populaire, pour être réélu, ben le truc, c'est de dépenser plus puis de taxer autant ou moins. Et ça produit inévitablement des déficits. C'est pour ça que ça prend absolument un plan. Si on n'a pas de plan, là, ça peut être vraiment problématique. Et puis, d'un plan, on n'avait pas vraiment jusqu'à ce qu'on règle le problème dans le milieu des années 90, tout simplement parce que les gens, le public, les voteurs, les électeurs ont eu peur à ce moment-là. Ils lisaient les manchettes des journaux et puis on voyait à l'horizon éventuellement une intervention du FMI pour nous sauver la peau. Puis quand le FMI intervient, ben quand un prêteur vous prête de l'argent parce que c'est vraiment mal pris, pour vous qui dictez les conditions, hein. C'est le prêteur qui dicte les conditions.
À quel moment, M. Bézil, on se retrouve dans une situation délicate au niveau du signal économique international? Est-ce qu'il y a un barème? Là, je me suis, madame tout le monde, là. À quel moment on change de braquette au niveau de la crédibilité économique de notre pays? Est-ce qu'on est déjà à l'autre bord de la ligne ou on est vraiment à côté dessus?
Mon impression, mais c'est vraiment un jugement de ma part, là. Mon impression, c'est qu'on est à côté dessus. On n'est pas encore passé de l'autre côté. Et c'est en partie pour deux raisons. La première, c'est que les taux d'intérêt sont historiquement très, très faibles. Les taux d'intérêt sont en bas du taux d'inflation. Et donc, le gouvernement veut emprunter à des taux très, très faibles. Et puis, le problème, c'est que c'est comme ça partout dans le monde. Alors, si les gens veulent acheter de la dette ou prêter au gouvernement, donc acheter des obligations, ben ils ont le choix entre le Canada ou les États-Unis ou la France ou qui sont tous des pays qui sont dans le pétrin un peu au niveau des finances publiques. Donc, si on était isolé tout seul dans notre coin, ça serait sans doute pire. On s'en va vers ça. On est remonté. Je vous ai dit que la dette, ça représentait à peu près 70 % du PIB en 1994. La dette fédérale était à peu près 30 % La dette nette était à peu près 30 % du PIB avant la pandémie. Et puis là, on est rendu à 50 % Et donc, on est en bas encore du niveau des années 90, mais il faudrait pas que les taux d'intérêt se mettent à monter beaucoup pour que ça crée un problème, une sorte de spirale, ou un cercle vicieux. C'est-à-dire que les taux d'intérêt montent, ça coûte plus cher au gouvernement, c'est qu'il dépense plus en intérêt sur sa dette. Comme il dépense plus, son déficit augmente. Comme son déficit augmente, il est obligé d'emprunter plus. Comme il emprunte plus, puis les taux d'intérêt sont élevés, ben, ça coûte plus cher encore, fait qu'il, c'est difficile de sortir de là. Ça avait été très difficile dans les années 90 de faire. Puis je trouve ça un peu beaucoup dommage qu'on soit revenu un peu de façon insouciante et nonchalante vers une situation qui nous aligne vers les années 90. On a tellement fait du beau chemin, là, on a tellement réglé nos problèmes Et puis, on est en train de perdre tout ça.
On se doutait bien, en terminant, M. Belzile, que la pandémie allait avoir le dos large, puis ça se sera répété. Puis ce que vous venez de dire, le comparatif avec d'autres pays, là, on l'a déjà entendu, on l'a déjà vu, hein, que c'est, on n'est pas les pires. Mais déjà avant la pandémie, le gouvernement de Justin Trudeau nous avait prouvé qu'il y avait une tendance à avoir de la difficulté à atteindre l'équilibre budgétaire.
Ah, tout à fait. Et puis, très franchement, là, j'aimerais peut-être pas mon analogie, mais. Si je revenais de l'école au primaire et puis avec une mauvaise note dans mon bulletin, je disais à mes parents ben oui, mais c'est pas la pire note. Disons que j'avais pas le droit des félicitations. Et puis ça, je pense que c'est un petit peu la même chose aussi, là, de dire qu'on n'est pas les pires. Évidemment, il y en a toujours des pires que nous. La Grèce est très, très toujours pire que nous, par exemple. Mais on devrait pas se vanter de ça. Et puis on devrait pas léguer une dette de plus en plus lourde à nos enfants. Surtout dans un contexte où la population vieillit, on a de plus en plus de retraités, de moins en moins de gens qui vont travailler en pourcentage de la population, et que ça va, le fardeau des taxes plus élevées, ça va reposer sur un nombre réduit de contribuables. Et ça, malheureusement, les politiciens, depuis ta vie, ont souvent pas cette vision de long terme. Hein. Pour eux, c'est la prochaine année puis l'élection qui compte, mais il faut qu'on ait un peu une vision de long terme. C'est pour ça que ça prend un plan absolument. Et même, ça prend sans doute des règles. Il faudrait qu'on encadre sans doute des difficultés.
Monsieur Belzile, merci beaucoup.
Merci beaucoup de l'invitation.
À la prochaine, au revoir. Germain Belzile, qui est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Puis, tu sais, le tableau a été publié par les conservateurs en fin de semaine. Je le dis là parce que l'Institut est apolitique. Là. Je veux dire, ils ont le droit de faire des études puis que ce soit repris par des partis politiques. Mais faites attention. Le gouvernement Trudeau a de la difficulté à chiffrer ses promesses, mais ce qu'Aaron O'Toole fait depuis le début de la campagne, c'est pas mieux, là. On n'a pas plus de chiffres quand il a promis, entre autres, de mettre sur pause la TPS pendant la période des fêtes. Ça représente combien? Il n'a pas été en mesure de le chiffrer exactement. Il y a d'autres promesses qu'il a fait qu'il n'est pas en mesure de chiffrer. Le NPD, je doute qu'il soit de meilleurs administrateurs que le Parti libéral.
Oh mon Dieu.
Mais ce qui sera intéressant, c'est l'exercice qui est fait par le directeur parlementaire du budget au fédéral. Il chiffre les mesures qui sont avancées, qui sont annoncées par les différents partis, puis en cours de campagne, vers la fin de la campagne, il va nous offrir le tableau. Puis ça, c'est intéressant. Puis on devrait s'y préoccuper.
Bien, c'est sûr, parce que comme M. Belzile l'a dit, on n'est peut-être pas encore à l'autre bord d'une certaine ligne qui va nous emmener dans une spirale mauvaise, mais on devrait avoir beaucoup de voyants lumineux qui disent « faites attention, parce que si on traverse l'autre bord, c'est-à-dire que notre cote de crédit diminue à l'échelle internationale au niveau de nos prêteurs, ce qui nous pend au bout du nez, inévitablement, ce sera soit éventuellement des coupures dans la fonction publique ou des taxes supplémentaires. Et je vous laisse deviner lesquelles auxquelles on aura droit. Mais, tu sais, oublie pas une chose, la semaine passée ou la semaine d'avant, quand j'étais en onde, puis que les élections étaient imminentes, non seulement la première chose que j'ai dit, je comprends pas pourquoi on s'en va en élection, et de deux, je vous ferai réaliser. Puis ça, c'est chiffre à l'appui, que ce sera les élections fédérales les plus coûteuses de l'histoire du Canada.
À chaque fois, c'est ce qu'on dit.
600 millions, juste l'élection, là. 600 millions de dollars, et pour moi, ça résume excessivement bien tout l'accomplissement économique du gouvernement libéral de Justin Trudeau depuis ses mandats à la tête du pays. C'est-à-dire, on dépense sans compter, dans une optique floue, pas définie. On s'en va en élection pour 600 millions de dollars, alors que vous vous doutez déjà peut-être du résultat. Et on a-tu vraiment besoin de ça?
À 12h40, justement, Justin Trudeau s'est vanté d'une chose au cours des derniers jours. On va aller vérifier si c'est bel et bien vrai. Est-ce que vos forfaits de téléphone cellulaire vous coûtent réellement moins cher grâce à lui?
On revient dans quelques minutes. 95.7 Geek Saguenay. Midi pile. Fendant et